Est-ce qu'on peut tout dire ou est-ce qu'on ne peut plus rien dire? Telle est la question. Pendant ce temps, Radio Bistrot l'affirme, on nous cache tout, on ne nous dit rien. Dites-moi, que dire? Comment dire?
Pascal Paradou.
En ces temps de durcissement et de radicalisation du débat politique, de multiplication des réseaux sociaux, alors qu'une chaîne de télévision a cessé d'émettre sur décision de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, comment envisager la liberté d'expression, valeur centrale de toute démocratie? Bonjour Anne Arzoumanoff.
Bonjour.
Maître de conférences en linguistique, spécialiste de ces questions de liberté d'expression sous l'Ancien Régime jusqu'à nos jours, vous publiez « Juger les mots », un court essai très instructif sur les lois qui organisent cette liberté, car il faut le dire d'entrée de jeu, en France, la liberté d'expression est garantie par la Constitution, mais elle est encadrée. Et c'est ce « mais » qui est important.
Oui, tout à fait. Alors, donc, la liberté d'expression en France est encadrée par une loi qui est une loi très ancienne, enfin qui a 140 ans, la loi de 1881, qui à la fois protège la liberté d'expression, mais en même temps en prévoit un certain nombre de limites. Donc, par exemple, l'injure, la diffamation, l'apologie aussi du meurtre, etc., sont des sanctions qui sont prévues par la loi. Donc, on ne peut pas tout dire. Et puis, il y a eu après d'autres évolutions de cette loi. Donc, il a fallu attendre ensuite 1972 pour qu'on ait la loi Pleven qui a introduit le délit d'incitation à la haine et à la discrimination envers une communauté définie par une race, une religion, etc. Puis, si on continue ensuite dans ces différentes lois qui régulent l'expression en France, donc il y a la loi Guesso en 1990 qui prévoit le délit de négationnisme. Et puis, on peut peut-être aussi parler de 2004, qui est une loi qui a étendu le spectre des communautés qui sont protégées par les lois, par la loi de 1972 qui concerne les communautés protégées de l'incitation à la haine.
Et ces lois sont régulièrement et vivement contestées par une partie de la droite ou de l'extrême droite qui disent qu'elles servent à exercer une censure. C'est un mot qu'on entend souvent.
Tout à fait. Alors justement, mon livre va à l'encontre de cette idée, de cette formule qui est devenue, qu'on nous sert sur tous les plateaux télé, on ne peut plus rien dire, dans la mesure où, en fait, ce qui est surtout critiqué, c'est la loi Pleven qui protège des communautés et donc des minorités. Et c'est la raison pour laquelle certains disent que ce serait une sorte de dictature des identités. Et puis la loi Guesso également est critiquée parce que, puisqu'elle prévoit le délit de négationnisme, elle est critiquée au nom d'une sorte d'établissement d'une vraie histoire qui serait l'histoire officielle. Et donc, c'est les deux raisons pour lesquelles on critique violemment ces lois.
Mais alors, dans votre livre, ce qui est assez passionnant, Anne Arzoumanoff, c'est qu'on voit bien que ces lois sont toujours l'objet d'interprétations, qu'il n'y a pas d'unanimité entre les différents niveaux juridiques, entre la Cour d'appel et la Cour de cassation, par exemple. Et puis surtout que c'est un essai qui s'appuie sur les décisions de justice depuis une vingtaine d'années. Il ne s'agit pas du tout d'un livre d'opinion, mais c'est plutôt un travail de précision sur les textes et les condamnations.
Oui, tout à fait. En fait, j'avais envie justement de répondre à ce sentiment dont on ne peut plus rien dire, de sortir du domaine de l'opinion. Également à un moment où, aux États-Unis, on a un vice-président comme Jay Davis qui vient en Europe nous expliquer que les Européens ont un problème avec la liberté d'expression, que les opinions sont interdites et que voilà, on n'accepte pas des opinions alternatives. Il s'agissait au contraire de montrer exactement ce que sont ces lois, à quel type de contentieux elles s'appliquent, à quel type de discours, et de le montrer en acte en essayant d'expliquer les critères et puis aussi de rassurer en montrant que finalement il y a assez peu de discours condamnés en France.
Et vous rappelez qu'il y a quand même un tribunal spécialisé, c'est la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, que vous appelez le tribunal des mots, car finalement ils peuvent blesser comme des armes.
Exactement. D'ailleurs, ces lois, finalement, reposent sur l'idée que les mots ont un vrai pouvoir performatif. Donc, ils peuvent, parfois, on dit aussi que les mots tuent. Donc, c'est cette idée, c'est-à-dire qu'un mot peut porter préjudice à autrui. Et donc, c'est dès lors que le mot peut porter préjudice à autrui ou à une communauté qu'il y a une condamnation.
Cette définition de la liberté d'expression, avec ses limites, hein, on l'a vu, est-ce que c'est une exception française ou elle est largement partagée dans le monde démocratique au moins ?
Alors justement, tout à l'heure je parlais des États-Unis, la conception de la liberté d'expression aux États-Unis est complètement différente. Elle repose sur le premier amendement qui donne une définition très large de la liberté d'expression. En réalité, on peut quasiment tout dire aux États-Unis, en tout cas du point de vue du droit. Ce premier amendement permet notamment de faire un salut nazi, de faire une réunion du Ku Klux Klan, etc. Donc ça, c'est, on voit bien une différence. Et vous me demandiez s'il n'y avait qu'en France. En fait, on peut opposer le droit européen au droit états-unien qui repose à peu près sur le même type de raisonnement en Europe.
Alors, on peut tout dire, mais on ne peut plus travailler sur le genre, on ne peut plus travailler sur les identités, sur les immigrations, etc., etc. Donc, c'est quand même une forme de liberté d'expression assez paradoxale que vous racontez là.
Oui, vous parlez des États-Unis. Oui. Alors, c'est ça qui est intéressant aux États-Unis, c'est que justement, il y a du point de vue du droit, une régulation qui est minimale. Et pourtant, on voit bien avec l'administration Trump ici que c'est le pouvoir politique qui s'arroge le droit de limiter la liberté d'expression en traquant un certain nombre de mots sur lesquels ils ont jeté un anathème. Hein, et on voit bien, et j'espère que mon livre montre à quel point c'est absurde de raisonner à partir de listes de mots a priori. En fait, par exemple, si je ne veux pas du mot femme, le mot femme peut être dans un discours d'incitation à la haine des femmes ou au contraire de valorisation des femmes. Donc on voit bien que ça n'a aucun sens. D'une part quand c'est idéologique et d'autre part quand on fonctionne comme ça avec des listes de mots a priori.
Alors votre livre est totalement en prise avec l'actualité, on va le voir avec quelques exemples, mais heureusement on peut encore sourire avec Henri Salvador, ou plus précisément avec une reprise de l'une de ses chansons, Mon pauvre Jésus-Christ, reprise par Voyou en duo avec Flore Benguigui.
tous avoir de leur côté. Alors en regardant les hommes enfants, tu penserais que tu es mort pour rien. Mon pauvre Jésus-Christ.
Mon pauvre Jésus-Christ, voyou sur RFI avec cette reprise de Salvador. Aucune injure, aucune diffamation, aucune communauté ciblée dans cette chanson, tout va bien, mais il n'en va pas de même dans certaines chansons de rap, dans la littérature ou dans le débat public. Dans votre livre « Jugez les mots », Anna Arzoumanoff, vous prenez des exemples très précis de ce que l'on peut dire ou pas, finalement, ce qui est un délit ou pas. Par exemple, dans une chanson de rap, « Nique la France », ça passe. Pourquoi ? Exercice pratique.
Alors, pourquoi ça passe ? Donc, pour ça, il faut essayer d'expliquer les critères. Donc, Nique la France pourrait être poursuivi pour injure envers les Français, parce qu'on ne peut pas faire d'injure envers la nation qu'est la France. Et donc ici, le critère est c'est que le propos doit rejaillir sur une communauté, donc une communauté d'individus et non pas un pays. En revanche, si je dis « nique les Français », il est possible que je sois condamnée dans la mesure où ce sont des individus. Ici, c'est la communauté définie par une nation. Et c'est ça, je n'ai pas le droit de le dire.
Donc, il faut identifier la cible pour pouvoir juger et faire la différence entre le référent abstrait, c'est-à-dire la France, c'est une entité comme ça un peu abstraite, ou humaine. Ce n'est pas la même chose.
Exactement. Et c'est ce qui permet aussi de comprendre qu'on puisse tenir des propos sur les religions en France. On a le droit d'avoir des opinions très négatives sur les religions et même critiquer violemment la religion. Houellebecq, par exemple, a été relaxé lorsqu'il a dit que l'islam était quand même la religion la plus con. Et en revanche, lorsque l'on tient des propos sur les croyants, donc que ce soit les musulmans, les catholiques, les juifs, etc. Là, la cible est considérée comme identifiée comme une communauté et donc on peut être condamné.
Oui, vous rappelez que la question au cœur du droit, c'est le préjudice et ce n'est pas l'offense. Donc la France ne peut pas être victime de quoi que ce soit alors que les Français peuvent se sentir offensés d'un mot de trop ou déplacé. Il faut rappeler aussi que le blasphème n'existe pas en France et ça, c'est la loi sur la liberté de la presse, la loi de 1881. On peut ridiculiser l'islam ou la religion catholique, mais pas les pratiquants, en fait.
Oui, exactement. Même si, en fait, on a vu un certain nombre d'associations de défense, notamment des catholiques, mais aussi des musulmans, dans le cas des caricatures de Mahomet, ou bien dans un certain nombre d'autres affaires qui concernent les catholiques, qui considèrent que lorsqu'il y a un blasphème, c'est une atteinte au droit des croyants et que derrière le blasphème, donc derrière une critique de la religion, il y aurait un préjudice fait aux chrétiens ou aux musulmans. Et les tribunaux ont hésité en fait face à la réponse à donner à cette question qui leur a été posée. Donc ils ont eu de premières hésitations concernant les catholiques en condamnant d'abord, mais ensuite ça a été forcément cassé par les autres juridictions. Là où maintenant les tribunaux sont extrêmement clairs, un blasphème ne constitue pas une atteinte au sentiment des croyants et donc ne relève pas de l'injure faite aux croyants ou de la provocation à la haine des croyants.
Et puis pour identifier la cible, à lire votre livre, il faut qu'une communauté dans son ensemble soit visée, donc pour être en infraction, c'est-à-dire qu'il faut viser l'ensemble des musulmans, mais si on dit les islamistes, ça passe.
Tout à fait, en fait, parce que les islamistes, c'est une partie d'une communauté qui est définie par la loi. Donc les musulmans, c'est une communauté définie par sa religion. Donc ça, c'est prévu par la loi. En revanche, si je dis islamiste, c'est une partie de cette communauté qui est définie par une idéologie. Et j'ai le droit de critiquer une idéologie radicale. Donc c'est pour ça que ça passe.
Alors vous constatez d'ailleurs que dans les discours de l'extrême droite, pour échapper à des poursuites judiciaires, il y a comme ça un glissement, que le mot musulman a été gommé des dernières déclarations, des derniers discours, au profit du mot islamiste, justement.
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des études de linguistes qui montrent que chez Marine Le Pen, Jordan Bardella, on parle plus d'islamistes, de fondamentalistes, mais à force de répéter sans cesse ces termes, évidemment, on pourrait se poser la question de savoir si ce ne sont pas les musulmans qui sont visés. En revanche, du point de vue des critères de la loi, on voit bien que ce sont des discours qui ne sont pas condamnés, contrairement à Éric Zemmour. Donc, c'est là aussi qu'on peut opposer à l'extrême droite deux types de discours. Donc, Éric Zemmour, au contraire, n'hésite pas à viser les musulmans.
Alors, la France a été marquée il y a 10 ans par l'affaire des caricatures et l'attentat qui a frappé Charlie Hebdo. Je vous propose de réécouter, Anna Zourmanoff, Richard Malka, l'avocat du journal. C'était juste après cet attentat où 11 personnes ont perdu la vie, dont 8 membres de l'hebdomadaire satirique.
Soyez là, mais laissez-nous un tout petit peu travailler ensemble. Et puis, ce qu'on a à vous dire, on va vous le dire dans les 8 pages qui vont être publiées mercredi, mais... Le peu d'énergie qui nous reste, la force qui nous reste encore un peu, le cœur qui nous reste encore un peu, on le met dans ces 8 pages. L'urgence, et c'est le monde qui l'attend, c'est le prochain numéro de Charlie Hebdo. Et c'est comme ça qu'on s'exprime depuis toujours et c'est notre manière de s'exprimer. Et voilà.
La liberté d'expression envers et contre tout, Charlie Hebdo est d'ailleurs devenu un symbole depuis une dizaine d'années. Pourtant, il a souvent été poursuivi, mais souvent relaxé aussi, il faut le préciser.
Tout à fait. D'ailleurs, on peut rappeler que les caricatures de Mahomet ont été jugées par le tribunal en 2007, la 17e chambre, mais aussi par la Cour d'appel de Paris, qui a considéré qu'il n'y avait pas d'incitation à la haine des musulmans. Donc, c'était tout à fait autorisé comme type de représentation en France.
Est-ce que la justice a tendance ces derniers temps à atténuer ces jugements ? Vous racontez par exemple que l'adjectif nazi a tendance à se banaliser et n'est plus incriminant. C'est-à-dire, on peut traiter quelqu'un de nazi.
Alors, quand je parle de nazis, c'est aussi dans un contexte particulier qui est un contexte de campagne électorale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas que des mots abstraitement qu'on juge, mais ce sont des mots dans un contexte. Donc, il y a des contextes qui autorisent une liberté d'expression plus grande. C'est le cas d'une campagne électorale où, finalement, on pourrait dire que presque tous les coups sont permis quand il s'agit de caractériser l'idéologie de la personne à laquelle on s'oppose. Donc, en l'occurrence, ici, c'était un candidat qui avait traité son adversaire de l'extrême droite de nazi. Donc je ne peux pas dire que le mot nazi en soi soit autorisé, mais dans ce type de contexte, il l'est.
Alors, actualité brûlante, c'est l'usage des mots en matière de lutte contre l'antisémitisme. Petit rappel d'histoire, on est à Paris lors d'une manif des Gilets jaunes et le philosophe Alain Finkielkraut est pris à partie très violemment, notamment par un manifestant.
Finkielkraut, barre-toi ! Sanctionniste de merde, barre-toi ! C'est contre cette merde, grosse merde.
Il est venu exprès pour nous provoquer.
Attends, c'est bon.
Il est venu exprès. Lui, vous êtes
libre. Excusez-nous.
Finkielkraut insulté, c'est très violent quand même, et encore ce n'est qu'un court extrait de l'altercation. Et il est traité de sioniste. Alors il se passe quoi ? Parce qu'a priori, sioniste n'est pas une insulte, or le manifestant est condamné.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien ici que le ton est très injurieux. Donc la loi de 81 prévoit bien l'injure. Donc on aurait très bien pu imaginer une condamnation pour injure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle une injure aggravée lorsque l'injure a un caractère antisémite, raciste, etc. Et donc, ça a été la question qui a été soumise au tribunal, à savoir, est-ce que quand je dis sioniste de merde, on voit bien ici que c'est une injure, c'est une injure aggravée à caractère antisémite, et donc si sioniste était l'équivalent de juif. Et on voit à quel point, donc le tribunal a dit oui, que c'était bien une injure à caractère antisémite, et on voit bien à quel point le tribunal doit trancher des questions qui sont extrêmement sensibles dans la société actuellement, puisque certains disent que l'antisionisme est un antisémitisme, là où d'autres, au contraire, considèrent que critiquer Israël n'a rien d'antisémite.
Est-ce qu'il y a une crispation, selon vous, en ce moment sur ces questions-là, en instrumentalisant finalement le langage ?
Je pense, oui. Alors ensuite, je ne commenterai pas forcément le débat public, donc je ne suis pas spécialiste. Mais ce qui est sûr, c'est que au tribunal de la 17e chambre, il y a eu une augmentation du contentieux concernant l'anti-sionisme, antisémitisme et puis même l'islamophobie depuis le 7 octobre 2023. Donc ça montre bien que, en tout cas, du point de vue du tribunal, il y a une augmentation des crispations et des personnes qui portent plainte pour ces raisons-là.
Et puis, il fait évoquer le nom de Éric Zemmour, président du parti Reconquête, donc d'extrême droite, qui a maille à partir de plus en plus avec la justice, avec des effets de revirement. D'ailleurs, il vient d'être condamné à 10 000 euros d'amende pour avoir déclaré que Pétain avait sauvé les Juifs français. Il a été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité, mais dans un premier temps, il avait été relaxé. Puis c'est la Cour de cassation qui a demandé un nouveau procès, et ce procès le condamne. Est-ce que ces allers-retours sont évidents, sont juridiquement compréhensibles, ou est-ce que là on peut parler de censure ou d'acharnement ?
Alors, en fait, si Éric Zemmour se retrouve jugé par différentes juridictions, c'est que c'est lui-même qui fait appel, lui-même qui se pourvoit en cassation. Donc ici, on ne peut pas parler d'acharnement de la justice. Hein. Il se retrouve devant ces différents niveaux de juridiction parce qu'il le souhaite. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'Éric Zemmour est très souvent convoqué devant le tribunal, devant la 17e chambre. Là, par exemple, rien que ces dernières semaines, il y a eu 3 décisions qui ont été rendues concernant Éric Zemmour. Mais on voit bien chez lui que donc il ne cesse de crier à l'acharnement, à la censure sur tous les plateaux télé. Lui, justement, il fait partie de ces gens qui nourrissent cette phrase « on ne peut plus rien dire ». Mais pourtant, en fait, les propos qui sont poursuivis enfreignent vraiment la loi française, et cette loi qui, encore une fois, a 140 ans. Hein, donc il n'y a pas d'acharnement. Il faut comprendre que c'est en vertu de loi qu'on le juge.
Oui, en tout cas, il maîtrise parfaitement le langage et les subtilités de la loi, parce que, par exemple, quand il parle des musulmans, il suffit de dire « la plupart » pour que tout d'un coup, il échappe à la loi.
Alors, c'est ce dont il s'est vanté pendant à un certain moment, il y a quelques années. Donc, il a expliqué qu'il avait trouvé le mot magique, puisque, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, il faut viser une communauté dans son ensemble pour être condamné lorsqu'on commet une injure ou une incitation à la haine. Donc, Éric Zemmour est allé expliquer en se vantant qu'il suffisait d'utiliser le mot magique, de dire certains musulmans, certains, certains mots, ou la plupart, et que dès qu'on disait tous, dans ce cas, on était condamnés. Donc c'est pour ça qu'il parle de mots magiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été pris à son propre piège. Et donc quelques mois après, un tribunal a rappelé le discours d'Éric Zemmour en disant bah, « en fait, ça suffit » et donc l'a condamné lorsqu'il avait dit « certains ».
Dire, chercher le sens des mots, des expressions, c'est aussi le projet de Lucie Bouteloup, et c'est toutes les semaines dans De Vive Voix, La Puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Ben vous êtes un peu essoufflée, qu'est-ce qui se passe?
Oui, il faut dire que j'ai couru comme une dératée pour ne pas arriver en retard.
Oh là, vous jouez la comédie.
Une dératée, donc oui, vous m'avez bien entendu. Alors on parle de cette expression tout de suite avec Sylvie Brunet. Mais avant Pascal, comme d'habitude...
Les enfants.
Comme un dératé, ça veut dire courir comme un fou un peu.
Moi j'aurais dit, c'est par exemple, tu cours sans trop savoir où tu vas. Par exemple, si il y a un loup qui te course, bah forcément tu vas pas savoir où aller, tu vas juste courir le plus vite pour lui échapper et puis c'est tout.
Dératé, ça veut dire tu dérapes ou t'arrives plus à contrôler dans une voiture quand tu conduis, ou tu vas trop vite et après tu dérapes.
Dératé, bah en fait c'est pas raté du coup. Donc c'est un peu bien courir comme un dératé, parce que si on disait courir comme un raté, bah, ce serait mal courir. Alors que courir comme un dératé, ça veut dire bien courir.
Ça veut dire t'es nul, tu cours très lentement, t'es raté quoi.
La puce à l'oreille.
Bonjour Sylvie Brunet.
Bonjour.
Alors courir comme un dératé, qu'est-ce que ça veut dire cette expression ?
Bien oui, c'est pas facile parce que la rate du corps humain n'est pas familière à tout votre jeune public. C'est normal, ils ont rattaché ça à des mots qu'ils connaissaient. Et c'est à la rate qu'il faut penser, qu'il y a un petit organe qui est situé dans l'abdomen.
Donc rien à voir avec le fait de déraper ou avec le fait d'être un raté. Quand on court comme un dératé, ça veut dire...
Qu'on court très vite parce qu'on nous a enlevé la rate.
Alors pourquoi diable est-ce qu'on court vite quand on nous enlève la rate ?
Eh bien on ne savait pas très bien à quoi servait la rate dans l'Antiquité, mais on pensait que si on la retirait, les coureurs iraient plus vite parce qu'on pensait que c'était à la rate que l'on devait les points de côté que l'on avait quand un messager qui devait courir plus vite que la lumière pour porter un message s'arrêtait paralysé par un point de côté, c'était à cause de sa rate.
Alors je crois que cette croyance a été reprise par la suite et qu'on a voulu dérater les animaux. Et ça a commencé par les chiens.
On a effectivement, au XVIIe siècle, on a essayé de mettre la chose en pratique et on a dératé les chiens. Et on a attendu de voir s'ils allaient courir plus vite.
Hélas.
Ils ne couraient pas plus vite, mais surtout ils sont morts.
Pourtant, l'expression est restée. Comment on explique ça ?
Et l'expression est restée parce que, vous savez, quand quelque chose imprime très fort l'imaginaire, eh bien ça reste. Donc, même si au XVIIe siècle, on a fait l'expérience de cette impossibilité de dérater un animal, heureusement on ne l'a pas tenté chez des humains, eh bien l'idée que si on enlevait la rate, on allait plus vite, eh bien elle est restée dans l'imaginaire collectif. Et l'expression, elle est née au XVIIIe siècle, métaphoriquement, courir comme un dératé, courir comme quelqu'un à qui on aurait enlevé la rate.
Mais d'ailleurs, au point qu'au XVIIIe, un dératé, c'était quelqu'un qui était vif, qui était éveillé, qui était dégourdi. Donc, c'était quand même extrêmement positif.
Absolument. C'était vraiment quelqu'un qui était allégé à tout point de vue et qui était meilleur, au meilleur de sa forme, aussi bien physique qu'intellectuelle.
Et puis, il y a aussi cette idée, Sylvie, que la rate, dans la médecine des humeurs, à quelque chose de très négatif, puisque c'est à cet organe qu'on associe la mélancolie.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot mélancolie en grec. Mélancolès, ça veut dire la bile noire. Et on pensait que le siège des humeurs sombres se trouvait justement dans la rate. Et on en garde trace aujourd'hui quand on dit à quelqu'un « te mets pas la rate au courbouillon », par exemple.
Alors, on court à fond la caisse quand on est un dératé. On court comme un lièvre.
Ouais. Court comme un fou, ils l'ont dit, les enfants.
Les Allemands, eux, ils courent comme une belette. Quant aux États-Unis, on parle de courir comme une chauve-souris sortie de l'enfer. Et les Espagnols, eux, courent comme l'âme que le diable emporte. Ouh, c'est terrifiant.
Oui.
Pour dire qu'on prend vraiment ses jambes à son cou, quoi. Merci, Sylvie Brunet. Il n'y a pas le feu au lac. Pas la peine de sortir de ce studio en courant comme une belette, ni comme une dératée. Dératée, un mot que l'on retrouve dans votre dernier ouvrage. Ces mots qui n'existent pas, mais qu'on emploie quand même. Il est édité aux éditions de l'Opportun. À très bientôt.
Merci.
Merci à toutes les deux. Anna Arzoumanoff, encore un exemple qui peut en amuser certains. Est-ce que je peux dire à mon patron que c'est un exploiteur ou un voleur ?
Alors, votre patron peut décider de vous poursuivre. Le problème, c'est si, comme dans de nombreux cas, il vous poursuit en diffamation, le tribunal vous répondra qu'il ne s'agit pas d'un fait suffisamment précis et donc vous serez relaxé. En revanche, je conseille plutôt à votre patron de vous poursuivre sur le fondement de l'injure. Il a plus de chances que ça marche.
Et vous me conseillez de ne rien dire à
oui,
mon patron.
Plutôt.
Hein, c'est plutôt mieux. Merci beaucoup. Juger les mots est édité chez Actes Sud dans une nouvelle collection baptisée La Compagnie des Langues. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler l'ouverture des candidatures pour le prix RFI Théâtre. Plus que 2 semaines et demie pour envoyer votre texte si vous écrivez du théâtre. Le 3 mai à minuit, c'est fini. Et l'adresse, vous la connaissez, prix.théâtre@rfi.fr. On se retrouve demain et vous pouvez bien évidemment nous suivre sur rfi.fr et sur l'application Pure Radio.